réplique l'Europe et maintenant avec Jacques Julliard et Paul Thibault. Le fossé se creuse entre les peuples européens et la construction européenne. Dernier exemple en date de ce désamour, la victoire du Leave lors du référendum britannique du 23 juin dernier. Ce Brexit sera-t-il l'occasion d'une reformulation, voire d'une refondation du projet européen, ou le début de la fin d'une grande aventure collective ? C'est ce que je demanderai à Jacques Julliard, auteur, entre autres, d'un essai qui a fait date sur les gauches françaises, et à Paul Thibault, qui a publié naguère une passionnante discussion sur l'Europe avec Jean-Marc Ferry. Et pour commencer, revenons au 23 juin. Quelle est votre analyse de ce que le mensuel Causeur a appelé cette étrange victoire, Paul Thibault?
Oui, effectivement, l'analyse en termes de différence entre les élites et le peuple me semble flagrante dans le cas du Brexit. Encore faut-il analyser, parce qu'il y a plusieurs différences entre l'élite et le peuple. Il y a évidemment le fait que la classe ouvrière anglaise a été soumise à une concurrence sociale et salariale qui a été considérable. On parle de 10 ou 20% de baisse des salaires réels en Angleterre depuis 10 ans. Ce qui est quand même considérable et très loin de la situation que nous connaissons en France. Alors, on comprend donc cette réaction. D'autant plus qu'il n'y avait rien de prévu, en particulier les prévisions. Quand l'histoire commence en 2004, quand Tony Blair, au moment de l'unification de l'Europe, n'accepte pas les réserves que font notamment les Français sur l'immigration d'Europe de l'Est. Lui, il ouvre les portes. Et en particulier, les Polonais débarquent donc en Angleterre puisqu'ils y sont invités. Ça rappelle quelque chose de plus récent. Et alors, les prévisions étaient dehors de 10 à 13 000 par an. Et il y en a eu 10 fois plus. Ce qui d'ailleurs contribue, enfin l'absence de prévision sérieuse contribue à la méfiance des peuples vis-à-vis des compétents, vis-à-vis des élites. Ça c'est un truc tout à fait flagrant. Il y a aussi une autre différence, qui est une différence franco-anglaise. Dans les analyses qui ont été faites ici, souvent on a dit, mais enfin, ces idiots de la classe ouvrière anglaise, ils n'ont pas compris qu'ils étaient victimes de Thatcher, etc., et de la politique conservatrice, et non pas victime de l'Europe. Pas faux, sans doute, mais il y a quelque chose d'assez frappant, je crois, c'est que les ouvriers anglais, disons, pour aller très simple, préfèrent être opprimés par leurs dirigeants à eux, plutôt que par une bureaucratie internationale, pour la bonne raison qu'ils ont prise dans un cas, ils n'ont pas prise dans l'autre. Et c'est pas du tout équivalent. Pourquoi cette comparaison est, à mon avis, absolument invalide. Une autre comparaison, alors on a beaucoup parlé de la différence générationnelle, qui est effectivement flagrante dans les résultats. Mais ce qui est assez frappant quand on regarde de près, c'est qu'on voit que ceux qui sont pour l'Europe, c'est ceux qui ne votent pas, les jeunes qui ne votent pas, qui sont pour l'Europe. Donc, l'Europe n'est pas pour un projet politique, c'est une espèce de confort de la vie, l'Erasmus, la circulation qui d'ailleurs ne s'arrêtera pas de toute façon, je suis tranquille, les Anglais pourront acheter des baraques dans le Périgord, puisqu'ils aiment ce pays, paraît-il, depuis Eleanor. Hein. Il n'empêche que, si vous voulez, cette ouverture d'horizon...
Il aime ce pays, mais pas ses habitants.
Ben, c'est une autre affaire. Mais alors donc, là, il y a une différence générationnelle. Donc, c'est la différence entre politisé et non politisé. Aussi, si vous voulez. C'est une troisième différence. Et alors, quatrième, une différence franco-anglaise cette fois. Ce que je disais tout à l'heure, les ouvriers anglais préfèrent être opprimés par les leurs que par les autres, c'est pas vrai en France, où une décision qui vient de l'extérieur est plus valorisée qu'une décision interne. C'est un trait de situation que moi je regrette beaucoup, mais qui est évident. Alors si vous voulez, si on veut analyser ce Brexit, et il faut le faire...
Bien, c'est curieux que vous disiez ça, parce que si les Français en 2005 ont voté contre le projet de constitution, c'est aussi parce que ils ont le sentiment qu'une bureaucratie européenne tend à prévaloir sur la démocratie française et ils ne se sentent pas représentés par cette bureaucratie.
Mais ça, c'est évident. Non plus. Mais je veux dire simplement que en France, alors là, peut-être dans les élites françaises, il y a une façon de se reposer sur l'Europe pour toutes sortes de raisons. À droite, on considère que ce peuple est ingouvernable et qu'il lui faut une discipline dans tous les sens du mot. À gauche, effet 83, quand on veut faire une politique, disons, de rigueur libérale, on la décore de l'Europe de façon à lui donner une dimension morale. À quoi la gauche tient ? C'est plus qu'à tout. Alors donc, il y a beaucoup de choses complexes si on analyse cette différence. Alors, je ne parle pas des différences entre l'Écosse et l'Angleterre.
On en parlera tout à l'heure. Bon, très bien. Problème. Jacques Julliard, quelle est votre analyse, à vous, de ce Brexit et votre analyse et votre jugement?
Cette étrange victoire a fait trois vaincus. Le premier, c'est le souverainisme. Je suis frappé de voir, d'abord, que cette débandade des partisans du Brexit, enfin du Leave, dès le soir, il est vrai qu'il y en a un qui a eu un poste de rattrapage sous forme de
Boris
ministre
Johnson.
De l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, il s'agit de Boris Johnson. Mais enfin, le fait qu'ils étaient là, avec leur victoire, comme une poule qui a trouvé un couteau, c'était tout à fait étonnant. Du reste, il est frappant de voir les sondages le montre qu'au lendemain du Brexit, la défaveur pour l'Europe a baissé et la faveur pour l'Europe a augmenté dans presque tous les pays européens et notamment en France. C'était de l'ordre de près de 10 points. C'est quand même impressionnant. Autrement dit, ma première remarque, c'est que le souverainisme est un excellent positionnement en termes politiciens, mais que son contenu s'évanouit dès qu'on le met aux manettes. Le deuxième vaincu, c'est l'Angleterre. Pour deux raisons. La première, c'est que Paul Thibault a abordé cette question. L'Europe qui a été vaincue au soir du 24 avril, c'est ça ? 24 juin, c'est l'Europe anglaise. C'est très exactement la conception d'une Europe aussi lâche, à tous les sens du terme d'ailleurs, que possible. C'est une Europe qui n'a pas de direction politique et c'est cela qui, au fond, s'est effondré. Et deuxièmement, il y a tout de même une certaine vision de l'Angleterre, qui était un pays qui dominait son propre destin et a donné cette impression tout au long du 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, on a l'impression d'une Angleterre, le Royaume-Uni, qui est soumis aux événements, soumis à des sautes d'humeur de son opinion et qui n'est plus maîtresse d'elle-même, en quelque sorte. Et ça, c'est, je crois qu'ils vont le payer. Là, on peut pas faire de pronostic, mais si j'en crois les gens de la City, ils sont pas très optimistes sur ce qui va suivre. Le troisième vaincu, c'est l'Europe de Bruxelles. C'est-à-dire l'Europe, justement, cette Europe anglaise qui se retrouve sans, au fond, le pays qui lui a permis de devenir cette chose un petit peu informe que nous connaissons désormais sous le nom d'Europe et qui, véritablement, a montré qu'on n'était pas à la hauteur de la situation. Ou bien il fallait plus d'Europe, ou bien il en fallait plus du tout. Je pense qu'on va en discuter dans un instant. Mais le fait est qu'on ne peut plus tenir. Je dirais un dernier mot. Paul Thibault a insisté sur le fait que ça a marqué une rupture entre les élites et le peuple. C'est tout à fait vrai. Sauf qu'il faut remarquer que c'est pas propre à l'Europe, au Brexit. Cette rupture, elle existe de la même manière à l'échelle nationale. Quand on dit l'Europe, s'il y avait plus de démocratie, ça irait mieux. Le niveau démocratique entre l'Europe, d'une part, et les pays nationaux de l'autre, en particulier la France, n'est pas très différent. Le sentiment des peuples de ne pas être entendus, c'est vrai pour l'Europe, et il va falloir s'y attaquer sérieusement, mais c'est vrai aussi, peut-être encore plus, à l'échelle nationale.
Paul Thibault.
Je dirais simplement que, en ce qui concerne effectivement le désarroi des souverainistes, disons, le soir du vote, c'est une chose tout à fait claire. Ils n'étaient pas préparés à gouverner. D'ailleurs, ils ne pensaient pas à gouverner. Et maintenant, ils sont dans une certaine difficulté. Ceci étant, les prévisions de leurs ennemis ne sont pas réalisées non plus. Enfin, bon, Theresa May, et elle, je sais pas qu'elle joue un jeu compliqué. Si vous voulez, qui a deux aspects, qui a un aspect social, incontestablement, un aspect souverainiste. Comment est-ce qu'elle va se débrouiller? C'est ouvert, mais en tout cas, la prévision, par exemple, de Macron, l'Angleterre va devenir un Guernesayification, oh là là, de l'Europe, ne me paraît pas devoir se réaliser. Alors bon, disons que s'ils sont dans le flou, et dans les choux, nous le sommes également. La question qui se pose, c'est de savoir si l'Europe peut être autre chose que ce qu'elle est actuellement. C'est ça. C'est-à-dire, au fond, on voit très bien, Angleterre ou pas Angleterre, que l'Europe a été conçue pour devenir une fédération. Par quels voies et moyens? C'est une question dont il faut parler, qui sont certainement voies et moyens qui sont mauvais pour être une fédération. Et puis ça s'est arrêté en route et ça a donné la pétaudière et l'impossibilité de décider. Par exemple, on parle d'harmonisation fiscale, bravo, mais les décisions fiscales doivent être prises à la majorité, figurez-vous. Alors bon, ça c'est comme ça. Alors non, à l'unanimité. Alors donc, évidemment, on a une difficulté de décider considérable. Alors, l'Europe de l'indécision. On est passé d'un messianisme européen à une indécision perpétuée, etc. C'est ça l'évolution de l'Europe. Je pense que tout de même, il y a un problème qui est structurel dans l'Europe, c'est le déni du politique. Ça vient de Jean Monnet, qui détestait la politique, qui n'était que passion irrationnelle. Et donc, préférence pour la technicité, enfin, il y a des citations que je n'ai pas ici, mais qui sont éclatantes et, je dirais, accablantes pour Jean Monnet. Mettez sur un dossier que vous avez bien préparé des gens qui n'ont pas de passion, ben, ils se mettront d'accord. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La politique est un art de un art du complexe, un art du global, si vous voulez, alors que la technique est un art du partiel. Alors, en accumulant le partiel, on obtient le global, c'est pas vrai, tout simplement. Donc, il y a un déni du politique, qui a une des conséquences pratiques de ça, c'est l'égocentrisme européen. On a cru que de faire avancer la machine, de la perfectionner, de la complexifier, etc., de lui donner de nouveaux objectifs et de nouvelles structures, comme le Parlement européen, qui sont plus ou moins efficientes, c'était le moyen de la faire avancer. Ben, la conséquence, une Europe qui n'a ni conscience géographique, pas de politique extérieure, ni conscience historique. Ça, c'est quand même assez accablant.
Jacques Julliard, je voudrais intervenir ensuite.
Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Paul.
Ben oui, trop.
Sur Theresa May, juste un mot. Pour en finir, si on peut dire, avec le Royaume-Uni, c'est que il en incarne aujourd'hui l'ambiguïté que je signalais il y a un instant, à savoir que on ne sait pas très bien, elle a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe, et maintenant elle applique le Brexit, et elle le fait d'ailleurs avec une ça, je m'en félicite avec une certaine fermeté. Oui. Et d'ailleurs, la France, François Hollande, répond, et j'espère que ça va continuer, avec une certaine fermeté. Parce que il y a au moins un point sur lequel je suis d'accord avec vous, Paul, c'est que l'Europe souffre et risque de périr de sa mollesse, de son ambiguïté permanente. Alors, sur le fond, l'analyse que Paul Thibault présente de l'Europe est vraie à cela près qu'il y a deux époques dans l'Europe. Il y a la première où l'Europe a été, au départ, l'Europe des six, mais c'est allé plus loin aussi longtemps qu'un homme comme Delors a incarné l'Europe et où c'est la Commission européenne qui gouvernait l'Europe. En fait, je ne m'attarde pas sur les détails juridiques, mais c'est Delors appuyé sur Kohl et Mitterrand qui ont gouverné l'Europe et qui l'ont assez bien gouverné. C'est allé en gros jusqu'à Maastricht. Et pendant toute cette période-là, eh bien, la construction européenne, avec toute une série de défauts, mais enfin progressé. Et puis, à partir de la fin du XXe siècle, il se produit une chose que les adversaires de l'Europe ne disent jamais, c'est que l'Europe, en tant que capacité de décision, disparaît de par la volonté même des pays. Et c'est-à-dire qu'on met des fantoches à la tête de l'Europe de Bruxelles. Le dernier, qui est honteux, s'appelle Barroso. Oui. Et son ralliement à Goldman Sachs est quand même plus qu'un symbole. C'est une honte.
C'est pas le seul cas. Nelly Kroes, c'est pas mal non plus.
Bien sûr. Non, mais
commissaire à la concurrence.
C'est pas tout à fait pareil. Dans le cas de Barroso, c'est quand même cette fausse incarnation de l'Europe qui est en quelque sorte ravalée à une affaire de gros sous. Mais à partir de cette époque-là, il n'y a plus d'Europe proprement dit parce que l'Europe est gouvernée par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État. En réalité, on est revenu dès les lendemains de Maastricht à l'Europe de l'équilibre des puissances telle qu'elle fonctionnait au XXe siècle. Alors je ne dis pas que ça libère l'Europe de toute critique, que ça l'exonère de toute critique. Ça veut dire que à ce moment-là, l'irresponsabilité, quand on dit c'est Bruxelles qui a fait ceci, c'est Bruxelles qui a fait cela, non, c'est les conseils européens, c'est-à-dire les chefs d'État élus démocratiquement, tels que les souverainistes les souhaitent, qui ont gouverné l'Europe, ou plus exactement, qui ne l'ont pas gouverné. Je répondrai, je vous laisse répondre tout de suite. Je veux répondre sur la politique.
Un mot simplement. Je dirais que on peut poser la question, est-ce que c'est démocratique ce que décrit Julliard? Je ne le crois pas, pour la bonne raison que la diplomatie, être gouverné modo diplomatico, peut-on dire, hein, c'est pas être gouverné démocratiquement, pour la bonne raison que la diplomatie fonctionne en circuit fermé, en taisant les enjeux que la démocratie publie. Alors donc, la comparaison ne vaut pas grand-chose. Et puis ensuite,
il y a un problème que vous avez soulevé et sur lequel je voudrais que vous nous arrêtions, c'est l'Europe a-t-elle une conscience géographique d'elle-même et a-t-elle une conscience historique? Commençons par la géographie. Je voudrais vous citer Pierre Manant dans un entretien au Figaro. Il parle de ce qui s'est passé l'été dernier, après que quelques dizaines de milliers de jeunes hommes furent entrés en Europe comme dans un champ abandonné. La chancelière allemande a encouragé le mouvement migratoire par des déclarations et des mesures d'une rare imprudence qui supprimait de fait la frontière extérieure de l'Union. Bref, tout fut fait ou dit pour convaincre les électeurs britanniques que la seule manière de recouvrer une certaine maîtrise de l'accès au Royaume-Uni était de sortir de l'Union. Et je crois que la question des frontières dans le Brexit et aussi dans la méfiance des peuples européens à l'égard de l'Europe est absolument essentielle. L'Europe a-t-elle une frontière extérieure? Jusqu'où et comment est-elle capable de la défendre? Et qu'en est-il aussi des frontières internationales? Après tout, il y a autour de, avec le Brexit, il y a une remise en cause généralisée en Europe de Schengen. Paul Thibault a parlé tout à l'heure des problèmes posés par l'afflux des immigrants venus d'Europe de l'Est, mais il y a le problème plus général de la possibilité pour l'Europe de répondre aux défis migratoires dans le monde contemporain. Jacques Julliard.
Il y a un argument meilleur que celui de Manant, parce que à Manant, on pourrait répondre que ouvrir la porte aux immigrés peut être une chose imprudente, c'est pas une chose anti-européenne. Ça ne mettait pas en cause les frontières de l'Europe, contrairement à ce qu'il dit. En revanche, les négociations actuelles avec la Turquie et qui durent depuis des années et qui sont devenues franchement caricaturales et grotesques depuis le Brexit anglais et puis surtout depuis que Erdogan est devenu un despote oriental, continuent comme avant. Or, ça pose non seulement le problème de la démocratie interne à cette Europe, parce que intégrer un pays qui est gouverné comme la Turquie de Erdogan est gouverné, et ça pose vraiment un problème sur le fondement même de l'Europe, mais en plus, alors du point de vue géographique, me faire croire que la Turquie est aussi européenne, est plus européenne que par exemple, je ne sais pas moi, le Maroc ou la Tunisie, voire l'Algérie.
Ou l'Ukraine par exemple.
C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Pour l'instant, je m'en tiens à ça, parce que j'espère qu'on aura un moment pour dire quelle conception on a de l'Europe future.
Bah, hein. Ah oui, mais bien entendu.
Mais là-dessus, moi je suis aussi radical que Paul Thibault ou Alain Finkielkraut. Hein,
ça, et Paul Thibault, sur cette question des frontières.
Si on revient, oui, les frontières, bien sûr. Et puis surtout une conscience géographique, parce que frontières, immigration, tout ça, mais il y a une explosion démographique en Afrique, notamment de l'Ouest. Est-ce que le devoir de l'Europe, ça n'est pas de prévoir, d'avoir une politique de développement de ces pays-là, qui serait la priorité, la priorité. Alors après, nous retombe sur le nez des conséquences imprévues, comme ces flux migratoires difficiles à contrôler, où on peut discuter sur les manières de le faire, si vous voulez, mais c'est surtout l'imprévision historique et géographique qui est parce que l'Europe fondamentalement a cru, grâce à Jean Monnet, que, et ça c'est l'apolitisme de l'Europe, qu'elle avait la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, que s'il y avait une mondialisation, ça pouvait se faire qu'autour du modèle européen, qui était l'espèce de point fixe. Eh bien, c'est pas vrai. La démocratie ne s'est pas implantée en Chine, comme on le sait peut-être, et même pas en Turquie. Et ce qui est quand même pour nous beaucoup plus dérangeant. Donc, il y a une fausse conception de l'Europe. Je dirais en plus, pour aborder un tout petit peu la question du lendemain, l'Europe est peut-être une pétaudière. Simplement, l'Europe a un domaine de compétences étendu, notamment depuis l'euro. Et là, comment est-ce qu'on fait pour quand on se met en dépendance mutuelle et qu'on n'a pas de système de décision commun légitime pour y répondre. Ça, c'est le point tout à fait important. Et moi, l'Europe ne pense pas qu'elle soit acquittée. Je pense que la zone euro est probablement à défaire.
Jacques Julliard, et ensuite je parlerai de l'histoire.
En désaccord total avec ça, naturellement, parce que défaire la zone euro, je ne dis pas quels sont les gens qui, en France, pensent à ça.
Stiglitz, par exemple.
Marine Le Pen.
Non, mais écoutez, je
c'est plus
pas
important que Stiglitz, excusez-moi.
Stiglitz, c'est quand même plus présentable, si je puis dire. Quand vous dites Marine Le Pen, argument polémique.
C'est plus présentable. Mais on peut être un prix Nobel d'économie et être un imbécile en politique. Hein. Ça, les deux choses ne sont pas incompatibles.
En quoi c'est imbécile?
Il y a même... Parce que l'euro est la seule manière à l'heure actuelle de faire tenir ensemble, pas la seule, non j'ai tort, et une des manières fondamentales de faire tenir ensemble des peuples. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est reconnue de l'extérieur. Je pense d'ailleurs que l'euro n'est pas du tout un échec. L'euro nous a empêchés de tomber dans la gravité de la crise de 2008. Je défends tout à fait l'euro. Alors, les politiques menées par la Banque européenne, on peut en discuter. Elles ont d'ailleurs beaucoup changé, hein, en changeant de titulaire. Mais l'euro reste un des acquis essentiels de l'Europe, sans laquelle l'Europe ne serait plus qu'un agrégat désorganisé de peuples désunis, et on n'est plus à la fin du 19e siècle.
Alors, qu'en sera-t-il de l'Europe demain ? Avant que vous répondiez l'un et l'autre à cette question, je voudrais qu'on s'arrête à la dimension historique, c'est-à-dire au passé de l'Europe et à la manière dont la construction européenne assume ou non ce passé. Après tout, vis-à-vis de l'Europe, nous sommes, je crois que c'est Ricoeur qui l'a dit une fois, à la fois des innovateurs et des héritiers. Mais que reste-t-il de l'héritage? Alors, je ne vais pas vous livrer ici mon analyse du Brexit, mais j'ai eu le sentiment, au lendemain de ce vote, que les eurocrates ne l'avaient pas volé, car ils se sont acharnés à faire de l'Union européenne le cheval de Troie de la déseuropéanisation. Parce que ces fonctionnaires, ou ces dirigeants, ces responsables politiques, ne se visent pas comme les dépositaires d'une grande civilisation, mais s'ils ont les héritiers de quelque chose, les héritiers du plus jamais ça, plus jamais de guerre, plus jamais de racisme, plus jamais de colonisation, et pour précisément éviter le retour des comportements ou des discours maléfiques, ils refusent d'incarner l'Europe dans ses monuments, ses cafés, ses œuvres, une forme de vie, un mode de présence sur Terre. Et donc, même Pierre Moscovici, récemment, encore après le Brexit, s'est offensé quand on a voulu lui parler des racines chrétiennes de l'Europe. On a l'impression que le plus jamais ça exige que l'Europe ne soit rien de substantiel, mais qu'elle ne se définisse que par des valeurs. On ne parle que de valeurs, et des droits, des normes et des procédures. D'ailleurs, Ulrich Beck, le grand sociologue, avait eu cette formule saisissante, l'Europe c'est vacuité substantielle et tolérance radicale, ouverture radicale. Et il me semble que les peuples européens vivent l'Europe autrement. Je me souviens d'un, et j'en aurai tout de suite terminé, d'un reportage donné sur LCI, à l'émission de Vincent Hervouette, Ainsi va le monde, juste avant le vote. C'était une ville acquise au Brexit, Peterborough. Effectivement, on voyait la rue principale de Peterborough, que des boutiques ou des cafés pakistanais ou polonais, et on apprenait que dans la ville, il n'y avait plus qu'un seul pub, il n'y avait plus qu'un. Et on a le sentiment que, et or les pubs font partie de la civilisation européenne. Donc ceux qui refusent la transformation de l'Angleterre ne sont pas anti-européens, ils veulent que l'Angleterre reste l'Angleterre et que l'Europe reste l'Europe. Et quand vous parlez d'avenir, Jacques Julliard, c'est aussi ça, c'est-à-dire cette Europe, cette construction européenne, assume-t-elle la civilisation européenne, et n'est-ce pas au nom de cette civilisation que les peuples européens affirment de plus en plus leur méfiance à l'égard de cette construction?
Écoutez, c'est pas la peine que je parle longuement. Ce que vous dites, j'y souscris à 100%. Et je l'ai toujours fait. Et je suis un Européen, pas intransigeant, mais ferme. Je crois à l'avenir. Et donc c'est pas la peine d'insister beaucoup là-dessus. Cette dénégation de la géographie et de l'histoire est une espèce de preuve que une partie des Européens, notamment ceux de gauche, se réfugient dans un monde complètement abstrait. Musil parlait de l'homme sans qualité, qui n'est rien, qui n'est ni ceci ni cela, qui n'est ni homme ni femme, qui n'est ni vieux ni jeune, etc., qui n'est pas un manuel, qui n'est pas... Bon, eh bien, on nous a fabriqué une Europe sans qualité. Et tout ce qu'on vient de dire l'indique. Et je laisse répondre Paul, mais après je voudrais dire pourquoi je suis content du Brexit, et je vais vous dire pourquoi.
Très bien, alors Paul Thibault sur cette question.
Oui, Jacques Julliard, à propos de l'euro, a dit que c'est ce qui tenait ensemble. Donc on est unis ensemble mécaniquement.
Pas dit exclusivement.
Oui, mais d'accord. Ben, on est tenus ensemble essentiellement mécaniquement. L'euro en est un bon exemple, si vous voulez. On met les gens dans le même bain sans organiser de solidarité entre eux, simplement en disant, camarades, vous devez tous suivre un règlement. Et le règlement, c'est la dette, etc. Enfin, les fameux 3% de déficit commercial, etc. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez, on dit, vous êtes coincés, vous serez obligés de marcher. C'est une espèce d'opération que moi j'appelle une opération de dressage. Et ça, si vous voulez, c'est précisément ça qui a abouti à rien, dont on a cru que c'était la voie pour une union politique, et ça s'est révélé non, ne pas l'être à partir effectivement quand le Conseil des ministres a pris une plus grande importance à Bruxelles. Mais par derrière, il y a quand même une idée de l'Europe. Et je pense que, au fond, il faudrait partir de cette formule très simple que la principale invention historique de l'Europe, c'est la nation. C'est-à-dire que c'est une particularité qui existe en fonction d'un universel qui la surplombe et en fonction de voisins qui ont le droit d'exister comme elle. Des anthropologues disent que ça sépare la nation de l'empire qui se veut universel, potentiellement, s'il le peut. Hein, et de la tribu qui est fermée sur soi. Et nous sommes des nations. Nous sommes des nations, d'ailleurs, par héritage religieux. Parce que là, il est évident que sans le peuple juif, il n'y aurait pas de... C'est une infusion juive à travers le christianisme dans l'Europe. Et ça, c'est une chose. Alors, comment unir les nations, étant donné qu'elles ne sont pas un terminus, les nations. Elles savent qu'il y a quelque chose autour d'elles qui peut les...
Et au-delà d'elles.
Au-delà d'elles, si vous voulez. Alors là, il faut...
C'est ce que Renan dit dans sa fameuse conférence.
Il a tout à fait raison, mais ceci étant, c'est pas ce qu'on a fait. On a cru qu'en les enfermant...
Mais on ne va pas parler que du passé, Paul.
Il faudrait
à un moment donné, oui. Qu'on dise ce qu'on pense sur le fond.
Et
parce
bien,
que
je...
des, oui. des analyses bah, sur l'Europe, bien. Sur les manques de l'Europe, on peut le faire pendant 48 heures. Et on aura, on sera pas allé au bout. La seule chose qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est de dire ce qu'on attend et ce,
oui,
ce qu'on est capable de faire.
Oui, mais à partir du moment, est-ce qu'on veut une Europe des nations ou est-ce qu'on veut une Europe post-nationale? C'est quand même déjà se projeter dans l'avenir que de se poser cette question. Vous terminez, Paul Thibault, nous allons parler d'avenir tout de suite.
Simplement, je dirais qu'il faudrait réfléchir autour de cette idée. Cette formule plutôt de souveraineté partagée, qui est une des formules qui revient dans le discours européen, d'ailleurs de tous les côtés. Hein. Et là, il y a probablement quelque chose à les conséquences pratiques, les possibilités pratiques de la mise en œuvre de cette formule. Si on veut parler de l'avenir, pour moi, c'est là que ça se situe.
Jacques Julliard.
Bon. Alors, je voudrais dire, premièrement, l'Europe, c'est la paix. C'est la raison principale pour laquelle je suis et je resterai européen, quoi qu'il arrive. Et longtemps, on s'est imaginé que la paix était une chose donnée en Europe. Ça n'est pas vrai. Vous voyez ce qui se passe à nos frontières, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui pourrait se passer demain à l'intérieur d'un certain nombre de nations européennes, c'est cela que... Quels que soient ses défauts, l'Europe nous a évité. L'Europe de monnaie, l'Europe de machin chouette, l'Europe c'est ce qui nous a évité la guerre et ce qui nous promet la paix. Deuxièmement, l'Europe c'est la prospérité. Alors on va dire, oh mais aujourd'hui le taux de développement, le taux de croissance de l'Europe est faible. C'est vrai. Les politiques menées ont été mauvaises. Mais ça n'est pas parce qu'une politique est mauvaise que je mets en cause le cadre. C'est pas parce que je suis en désaccord avec le gouvernement français que je dis que la France est à foutre en l'air. Eh bien, pour l'Europe, je dis la même chose. Ça n'est pas parce que l'Europe a fait, à certains moments, je suis le premier à le penser, une mauvaise politique, que ça fiche en l'air. Et j'en viens à l'essentiel. Je suis content du Brexit parce que nous allons désormais pouvoir reconstituer l'Europe sur des bases vraies, géographiques, historiques et politiques. Géographiques et historiques, parce que je crois qu'il n'y a d'Europe. Moi, je suis pour l'Europe de Victor Hugo. Victor Hugo, dans son grand livre, qu'on oublie toujours, qui s'appelle Le Rhin, a dit l'Europe, c'est l'alliance, de la France et de l'Allemagne. Il y a deux ennemis de l'Europe, c'est l'Angleterre et la Russie. Il dit ça, hein, il dit ça au XIXe siècle. Je pense que cette analyse géopolitique est toujours vraie. Et que le seul vrai problème de l'Europe, c'est d'arriver à ce que la France et l'Allemagne se mettent à un niveau économique et politique tel qu'ils puissent faire entre eux cette alliance. Tous les mots sont piégés, mais cette union qui est le seul creuset possible qu'il a été dans le passé et qu'il est dans l'avenir. Pendant une certaine période, la France a dominé l'Allemagne pour des raisons qui tenaient à la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, c'est l'Allemagne qui domine la France. Le problème reste le même. Je pense que nous pouvons faire une Europe beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui si on revient à l'alliance franco-allemande. Naturellement, l'Espagne, l'Italie et le Benelux rappliqueront immédiatement. C'est pas un problème. Et à partir de là, effectivement, on peut faire de cette espèce de bout de continent quelque chose qui n'est pas rayé de la carte du XXIe siècle. Si on me donne une autre solution, je suis prêt à l'examiner.
Eh bien alors, votre non, solution, Paul Thibault, et quelques questions.
Je veux bien, mais... Il y a une manière.
Si vous voulez bien, je suis content.
Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire qui est mauvaise. C'est pourquoi on va pas nous. Évidemment, on traîne dans le passé, mais le passé nous a mené où nous sommes. Alors, il faut comprendre où nous sommes. Hein, l'Europe réglementaire et commerciale, juridique et commerciale, est une Europe qui nous a mené. Y compris la crise économique d'ailleurs, à la faiblesse économique flagrante et à une allergie des peuples à cette construction. C'est ça. Alors il faut donc faire une Europe politique. Alors nous sommes d'accord, mélanger les vouloirs, le vouloir être, le vouloir exister dans le monde européen. Alors ça c'est une autre affaire et on arrive peut-être
à cette idée de
souveraineté partagée, moi qui me trouble et qui m'interroge, est-ce que c'est quelque chose de possible? Alors moi j'observe que souvent on la met et puis on dit attention, il faut pas supprimer les nations, souveraineté partagée, et puis ensuite on propose des constructions qui sont évidemment la destruction ou la décapitation des nations. Alors donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a des tas de choses à revoir. Par exemple, je me souviens d'un mot de Jacques Delors, d'avoir entendu un mot de Jacques Delors. L'Europe s'est décidée, elle ne s'est pas délibérée. Ça me paraît un mot très profond. Parce que quand on se donne la tâche de décider maintenant, tout de suite, on ne délibère pas. On doit cacher ses objectifs à long terme. On doit cacher ce à quoi on croit. Alors, il y a une espèce d'autocensure de l'Europe dans le fonctionnement de l'Europe. Alors, précisément, l'Europe, la souveraineté partagée serait sortir de là et probablement séparer la délibération de la décision. La délibération...
Mais il aurait lieu où, cette délibération, Thibault? Au Parlement de Bruxelles et Strasbourg?
J'ai un exemple très précis. Moi, je voudrais, et je le dis depuis X temps, que les parlements nationaux, qui sont les vrais contributeurs, ceux qui ont perdu du pouvoir, c'est pas le Quai d'Orsay qui a perdu du pouvoir, c'est l'Assemblée nationale qui a perdu du pouvoir, évaluent l'Europe de leur point de vue, du point de vue français, allemand, etc. Et ensuite, que l'on compare les évaluations, éventuellement à Strasbourg, au Parlement européen, mais et qu'il y ait une grande délibération sur l'Europe. Voilà. Ce serait pour moi le point absolument fondamental, de façon à ce que l'Europe rentre dans la conscience des nations, au lieu d'être cet objet artificiel et extérieur qu'elle est actuellement. Alors, les nécessités de décider sont une autre affaire. D'ailleurs, c'est l'Europe et le triomphe des exécutifs sur la législative, ça c'est tout à fait clair. À Bruxelles, les gens du Quai d'Orsay légifèrent avec leurs collègues, en se fichant des députés de l'Assemblée nationale.
La politique internationale française, c'est la même chose. C'est pas le Parlement qui décide.
C'est une des questions. C'est une des questions.
Non, mais je veux dire, c'est pas spécial à l'Europe.
D'accord. Mais
je voudrais vous donner un exemple de souveraineté partagée. Ça veut dire que la France et l'Allemagne, qui conservent leur autonomie, leur identité, vous voyez, l'emploi des mots terribles, des mots qui vous envoient à la guillotine.
C'est
alors,
terrible. Nous irons ensemble.
comme ça, on continuera à discuter sur l'Europe. Mais
jusque sur l'échafaud.
Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est pas la souveraineté politique, parce que personne ne l'a plus. C'est la souveraineté culturelle. C'est le fait que la France ou l'Allemagne reste le pays de la langue française ou de la langue allemande, de la littérature française, de la littérature allemande que j'admire, etc., etc., que l'éducation nationale, ces choses-là, soient restées dans le domaine, je dirais, des souverainetés nationales, qu'en revanche, on met en commun nos armées, je devrais commencer, nos diplomaties, nos armées, et à partir de là, qu'on commence à se comporter comme une entité unique du point de vue international. Et vous verrez une chose, c'est que l'alliance de la France, de l'Allemagne et des pays dont j'ai dit qu'ils se rallieraient rapidement donnerait un ensemble beaucoup plus puissant que cette espèce de chewing-gum actuel qui n'a de nom dans aucune langue.
Mais alors, justement, vous avez parlé d'identité. Moi, j'ai fait, il y a quelques années, une revue, Le Messager européen.
Oui, je me rappelle.
Et j'ai pris conscience que j'étais européen au contact, justement, des penseurs d'Europe centrale et d'Europe orientale, Miloš, Casimir Brandis, Milan Kundera, la dissidence. Et cela ne craignait pas de parler de l'identité européenne, une identité, d'ailleurs, dont ils pensaient qu'elle était menacée par la Russie soviétique. Il n'oubliait pas que le soviétisme, c'était aussi la Russie.
Je reviens à ce que vous disiez.
Ce que vous disiez de Victor Hugo. Alors, je ne sais pas si l'Angleterre peut être considérée comme notre ennemi.
Mais là encore. C'est un peu dur après 1940.
L'identité européenne est-elle aujourd'hui défendue par l'Europe? Et il y a un double problème aujourd'hui en Europe. Le problème de la mutation démographique qu'elle connaît avec les flux migratoires, le problème de la guerre que lui a déclaré, je ne sais pas comment l'appeler, l'islamisme radical. Comment doit-elle réagir? Et ce que je constate, c'est une division croissante entre l'Europe autrefois de l'Ouest, menée en l'occurrence par Angela Merkel, et l'Europe autrefois de l'Est, dont certaines manifestations nous inquiètent, mais qui a une position beaucoup plus radicale de fermeture. Nous voulons préserver notre identité, et il ne s'agit pas seulement d'Orban, le terrible Viktor Orban, il s'agit aussi de la Tchéquie, il s'agit de la Slovaquie social-démocrate.
La Pologne,
mais il y a des gouvernements de droite et des gouvernements sociaux-démocrates beaucoup plus fréquentables. Donc, que pensez-vous de cette division? Quelle peut être, dans le cas d'une souveraineté partagée ou d'une politique, si vous voulez, digne de ce nom, la réaction de l'Europe face à ce double défi dont je viens de parler, Jacques Julliard?
Je n'ai pas proposé de refaire une Europe à 27. Je dis que l'Europe ne peut se reconstituer, encore une fois, politiquement, diplomatiquement et même culturellement, avec les particularismes de chacune des nations, que sur la base de l'Europe occidentale. Moi, j'étais contre l'extension aussi rapide et sans condition à des gens que j'aime beaucoup, que j'admire. J'ai pas été dans les derniers à me battre pour Solidarność, etc. Cela dit, dire qu'ils ont, ils peuvent faire la même Europe que nous à l'heure actuelle, je pense que c'est un leurre, que c'est le cadeau empoisonné que nous ont fait les Anglais avant de nous quitter. Mais pour refaire l'Europe, il faut que l'Europe redevienne un modèle multinational. Mais dans multinational, il y a national. Et un modèle qui permette précisément aux pays de l'Europe de l'Est de faire leur chemin. Ils ont eu une histoire qui n'est pas enviable. Et donc, je me garderai bien de leur jeter la pierre. Mais dire qu'ils peuvent faire la même Europe que celle que nous pouvons faire avec les Allemands, les Italiens et les Espagnols, je dis non, pour le moment, non.
Oui, alors il faut réduire la surface de l'Europe pour la conforter, si vous voulez. Moi, je crois que... Alors là... c'est quand même quelque chose qui est dépassé. Alors techniquement par la mondialisation qui est quand même ce qui nous accable, si vous voulez. Par exemple, c'est bien beau. Du point de vue, il y a un problème agricole en Europe, c'est évident. Et alors les conséquences, si vous voulez, de l'espèce d'extension de l'Allemagne vers l'Est, parce que c'est ça qui se passe d'un certain côté à travers l'achat de terrain d'Ukraine ou des choses comme ça, ou la mobilisation de main-d'œuvre à bon marché venant d'Europe de l'Est, c'est quelque chose qui pèse lourd dans le présent. Donc on est déjà on est en dehors de ce schéma. Ce schéma, il a été aboli. On peut le regretter. Moi, je pense que l'extension a été faite trop rapidement. Védrine insiste beaucoup là-dessus. Et non seulement par les Anglais, mais par la Commission, qui a été, d'après Védrine, le maître d'œuvre réel de cette Europe perdue. Mais nous sommes là, ouais, si vous voulez.
Parce que la Commission était dominée indirectement par les Anglais, et pendant ce temps, les Français faisaient une politique de chef-lieu de canton. Alors, voilà pourquoi.
Quand même, je repose ma question autrement. On assiste aujourd'hui à un rétablissement des frontières intérieures, étant donné l'échec de Schengen, et peut-être est-ce le début de la fin, justement, de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, confrontée à la question migratoire, réagit en ordre dispersé.
Oui.
Alors, quelle doit être, selon vous, une politique européenne digne de ce nom? Comment doit-elle répondre à ce défi, dont on a des échos absolument tous les jours? Est-ce qu'elle peut répondre de manière unie? Est-ce qu'elle va le faire en ordre dispersé? Est-ce que la réponse humanitaire suffit? Et que serait une réponse politique à cette question où il y va vraiment de l'avenir de l'Europe? Paul Thibault.
Non, mais d'abord, on parle du passé, mais il aura fallu prévoir. Et ça, c'est l'apolitisme européen, c'est l'impossibilité de prévoir, de ne pas s'inscrire dans le temps. Ça, c'est tout à fait clair, si vous voulez. Et d'un certain côté, on continue, parce que l'écart démographique entre notamment l'Afrique et l'Europe n'est absolument pas pris en compte. Et simplement, je pense qu'il faut faire l'Europe, non pas sur l'union substantielle, comme semble le croire Jacques Julliard, de la France, de l'Allemagne et de quelques autres, mais sur que faire ensemble.
C'est ça la question. Et que faire ensemble? Comment répondre ensemble à la question que je pose?
Oui, comment?
Ça ne veut rien dire.
Mais si.
Pas du tout.
Que faire ensemble, par exemple? Est-ce que le développement de l'Afrique de l'Ouest est un enjeu majeur? C'est quelque chose dont on ne s'occupe pas. Pourquoi est-ce que nos usines vont en Chine et non pas au Sénégal, si vous voulez, par exemple? Ça, c'est des questions qu'il faut poser, parce que nous avons d'un certain côté une proximité démographique et nous avons une conscience mondiale qui est complètement décalée par rapport à ça. Alors, on n'a pas les yeux en face des trous. On ne voit pas où l'on est, on ne se comprend pas, on ne comprend pas le monde, et c'est à partir de ce genre de questions qu'il faut essayer de faire un projet commun.
On ira demander à M. Stiglitz un programme électoral pour l'Europe. Moi, je pense que les nations ne sont jamais constituées sur un programme, ni sur le que faire. Ils sont constitués dans le passé sur la guerre et sur le fait qu'il a
subi. C'est un que faire, la guerre. Je ne comprends pas comment
des férus de la nation comme vous êtes la réduisent à une espèce de programme électoral. Moi, je pense qu'effectivement, pour revenir à la question d'Anna Finkielkraut, quid par rapport aux migrations? Nous n'en sommes qu'au début.
C'est d'accord.
Je vous signale que le jour où Bouteflika va mourir, ça lui arrivera, l'Algérie risque d'être complètement déstabilisée, et le flot des immigrés que nous voyons aujourd'hui arriver des pays d'Afrique orientale, soit d'Asie, viendra d'Afrique du Nord. Et là, nous, Français, là je parle de la France, nous serons au premier rang. Et là, les politiques de fermeture seront impossibles et les politiques d'ouverture inacceptables.
Oui, suicidaires peut-être.
Il faudra bien à ce moment-là, alors là oui, je veux bien un débat national, sur les limites de l'immigration. C'est sûr qu'à ce moment-là, on sera obligé de prendre des mesures qui, encore une fois, on peut plus la mondialisation, etc. On ne peut plus fermer les frontières, mais à ce moment-là, on ne pourra pas non plus les ouvrir toutes grandes, comme nous le disent certains ahuris. Ça, c'est aussi un programme pour...
Sera un programme pour les nations ou pour l'Europe? La France devra-t-elle affronter ce problème toute seule, ou à l'échelle européenne, l'Europe est-elle mieux armée pour y répondre.
Je pense que de toute manière, l'Europe, la France sera au premier plan.
Oui.
Donc, il faudra bien qu'elle s'en occupe. Et je crois qu'il serait de bonne politique et de bonne prudence de préparer l'Europe vraie dont je parlais tout à l'heure pour que ce fardeau de l'immigration soit assumé collectivement, soit d'abord décidé collectivement et assumé collectivement. Et je crois que de ce point de vue-là, la politique tout à fait, comment dire, à certains égards suicidaire qu'a fait Merkel à propos de l'Est, eh bien, elle retrouvera sa signification. Et c'est-à-dire que si, à l'échelle de l'Europe, on décide d'ouvrir dans certaines conditions, ce sera autre chose que cette pagaille épouvantable dans laquelle nous vivons et qui n'est plus supportable, en effet. Donc, moi, je ne vois pas comment les partisans d'un Brexit français, je ne sais pas comment, un Frexit, etc., pourraient résoudre les problèmes qui se posent demain à la France.
Oui, bien sûr, mais je pense que, tout de même, le problème, c'est le problème du sujet politique. Est-ce que l'Europe est un sujet politique?
Ben, elle le deviendra.
Ou bien elle le deviendra. Ça, c'est votre souhait. Mais d'accord.
Moi, non, elle, c'est pas mon souhait.
Elle n'est pas un sujet politique. Plutôt, elle est un sujet politique au second rang. Elle est à travers les identités nationales, à travers un art de les confronter et de les confronter à travers des projets. Le mot projet est tout à fait fondamental. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est pas des difficultés internes. La paix, l'Europe, c'est la paix. Moi, je veux bien, mais il y a pas de danger de guerre interne à l'Europe. Il y a des dangers de guerre.
Mais si, il y en a tout d'arrêt.
Il y a des dangers de guerre externes, si vous voulez. C'est pas la guerre franco-allemande ne serait pas rallumée si on n'avait pas fait la CECA et la suite, si vous voulez. C'est pas ça du tout. Et alors, en tout cas, il n'y a pas de problème majeur, mais simplement le que faire, il est extérieur. C'est le fait d'être acculé historiquement ensemble qui démoralise les Européens. C'est ça le Brexit, enfin, au bout du compte. On se met ensemble dans une impasse et d'une impossibilité d'agir. C'est la possibilité d'agir et de délibérer qui doit être la base de la reconstruction de l'Europe. Et non pas une union franco-allemande qui ne veut dire rien, qui ne veut absolument rien. On mélangera pas la langue française et la langue allemande, que je sache.
Enfin, c'est pas en plus qu'il
dit exactement le contraire.
Jacques Julliard a dit le contraire. Bon, enfin, écoutez...
D'accord, mais je m'en doute qu'il a dit le contraire, évidemment.
Non, mais vous m'avez écouté. Mais
simplement, quand on parle d'union franco-allemande, qu'est-ce qu'on veut dire?
Mais je vous l'ai dit.
Des actions.
Dites-le pour finir, Jacques Julliard.
On va pas refaire l'émission. J'ai dit que les instruments de la souveraineté extérieure sont le premier pas de cette union. Et que notamment la fusion des diplomaties, des armées, peut-être de notre siège au Conseil de sécurité, etc., sont le premier pas vers autre chose qui est un rapprochement plus profond dans le domaine économique et social.
Merci beaucoup pour cette discussion que j'ai personnellement trouvée passionnante. Merci Jacques Julliard, merci Paul Thibault. La semaine prochaine, le titre de l'émission sera « Devenir français ». Mes invités seront Malika Sorel et Majid Chirfi. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.